À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 16 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Deux fleurons de l'aérospatial belge, Aerospace Lab et Amos, annoncent leur mariage. Ensemble, ils poursuivent un objectif commun, celui d'ouvrir la voie à un accès efficace et abordable à l'espace. Une nouvelle étude tente de comprendre le cerveau des entrepreneurs. Des chercheurs de l'Université de Liège lancent un appel aux volontaires afin de tester la flexibilité cognitive des entrepreneurs. Et si vous ne receviez pas votre convocation électorale avant le 9 juin ? C'est en tout cas la menace des syndicats de Bpost. Ils veulent forcer la direction à venir s'asseoir à la table des négociations. On vous explique. Je suis Onze Nouérès et vous écoutez le brief.
Le brief, cette info dès 7h.
C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'aérospatial belge. Le fabricant de satellites Aerospace Lab vient d'acquérir le spécialiste de l'optique Amos. Avec l'annonce de cette fusion de deux fleurons de l'industrie spatiale belge, ils promettent un accès plus efficace et abordable à l'espace. Aerospace Lab, après 6 ans d'existence seulement, a déjà 8 satellites déployés en orbite à son compteur et l'entreprise va désormais bénéficier des ressources importantes et des 30 ans d'expérience d'Amos. Pour le CEO d'Aerospace Lab, Benoît Depaire, cette fusion, elle amène le meilleur des deux mondes de l'industrie spatiale en liant les outils ultra spécialisés d'Amos à la capacité de production industrielle d'Aerospace Lab. Restons dans le domaine des sciences avec cette question étonnante. Existe-t-il un cerveau d'entrepreneur ? C'est ce que des chercheurs en neurosciences de l'Université de Liège veulent savoir. Les entrepreneurs auraient un comportement plus flexible et plus réactif que la moyenne. De quoi se demander si l'explication ne se trouve pas dans leur cerveau ? Fabienne Colette dirige cette étude. Elle nous explique les différences qu'il pourrait y avoir entre le cerveau d'un entrepreneur et un cerveau dit « normal », entre guillemets.
Ce qu'on s'attend à voir, en fait, c'est que chez les entrepreneurs, ils vont évidemment utiliser globalement le même réseau de régions cérébrales que d'autres personnes, mais peut-être que l'information transitera de façon plus efficace entre certaines parties du réseau, ou bien une sous-partie du réseau sera un peu plus fortement connectée à une autre, etc. On ne va pas s'attendre à un changement fondamental dans la façon dont le cerveau travail, mais on s'attend à ce que ce soit optimisé. Et donc, oui, on pourrait avoir ce qu'on appelle une connectivité qui pourrait être un peu différente chez des entrepreneurs par rapport à des personnes, par exemple des managers, en fait.
Mais donc, s'il y a bel et bien des différences dans leur cerveau, est-ce que ça veut dire qu'on est entrepreneur ?
La question qu'on se pose dans le projet, c'est est-ce que les entrepreneurs développent cette capacité-là parce qu'ils sont poussés à le faire, donc ils sont dans des situations où ils sont obligés d'être très flexibles pour pouvoir progresser, ou bien est-ce que les personnes vont plutôt avoir tendance à se tourner vers des activités entrepreneuriales parce que dès le départ, en fait, c'est quelque chose qui est facile pour elles. Donc, par exemple, déjà quand ils étaient enfants, par exemple, ils arrivaient à trouver les meilleures opportunités pour optimiser, l'utilisation de leurs jouets, par exemple.
Et si vous êtes entrepreneur, l'Université de Liège cherche un grand nombre de volontaires pour mener à bien cette étude. Et pour plus d'informations, je vous glisse le lien vers l'article dans les notes de l'épisode. Belfius va faire renaître un placement bien connu mais qui avait disparu des radars, le bon de caisse. Pour nos plus jeunes auditeurs, le bon de caisse, c'est un prêt fait à votre banque sur une ou plusieurs années et sur lequel vous percevez des intérêts fixes. Ce produit a disparu de la circulation pendant de nombreuses années. Durant la longue période de taux bas, voire négatifs, il avait en fait perdu de son attractivité. Belfius espère donc que la hausse des taux qu'on connaît en ce moment va rendre ces bons attractifs à nouveau. Toutefois, on ne connaîtra les intérêts proposés que ce mercredi lors de leur lancement et les échéances iront de 1 à 10 ans. Mais Belfius mise aussi sur un programme d'achat récurrent. En gros, les clients pourront acquérir automatiquement de nouveaux bons tous les mois. Bref, une manière vintage de diversifier son épargne. Allez-vous recevoir votre convocation électorale dans votre boîte aux lettres ? Eh bien, rien n'est moins sûr, car entre Bpost et les syndicats, les tensions montent d'un cran. Après le rachat de la société française Staci pour 1,3 milliard d'euros, les syndicats veulent avoir une vision claire de ce que Bpost envisage comme activité en Belgique. En plus d'une grève au finish, ils menacent donc de ne pas distribuer les convocations électorales, une manière de mettre la pression sur la direction pour la pousser à venir s'asseoir à la table des négociations. Les syndicats veulent notamment négocier le maintien de la distribution des journaux en interne, mais ce n'est pas leur seule revendication, comme l'explique Stéphane Dossin, responsable syndical à la CSC.
En même temps que ces risques sur l'emploi que font peser les marchés de la presse, il y a également une volonté de profonde restructuration voulue par le management afin d'augmenter la productivité au niveau du personnel de Bpost, qui fait que l'impact en termes d'emploi en serait presque doublé. Donc, on parle quand même de maintenant de plusieurs milliers d'emplois qui seraient en péril chez Bpost.
Et puis, ne pas distribuer les convocations électorales, c'est aussi un message envoyé au monde politique.
Mais clairement, le sentiment qui règne auprès des 26 000 postiers aujourd'hui, c'est quelque part abandonné par le monde politique qui laisse Bpost à son triste sort. Alors oui, abandonné par le monde politique, une bonne manière que veulent mettre en place ces facteurs, c'est peut-être, puisqu'ils sont oubliés, d'oublier de distribuer les convocations électorales.
Au Moyen-Orient, le cours du pétrole est peut-être la seule chose encore stable, mais pour combien de temps ? Avec les vagues de drones et de missiles envoyés par Téhéran sur Israël, le prix du pétrole a légèrement augmenté hier. Le baril s'échangeait à environ 90,50 $ à la clôture des marchés. Une stabilité qui s'explique par la relative accalmie dans les tensions, puisqu'Israël n'a pas encore répliqué à cette attaque. Mais malgré tout, l'incertitude est toujours de mise. Xander Vlassenbroek, bonjour.
Bonjour Andine.
Alors, vous couvrez ce dossier pour l'Écho. Concrètement, quels sont les risques qui pèsent encore sur le marché du pétrole ?
Selon les analystes de l'ING, il y a trois gros risques qui pourraient se matérialiser à court ou moyen terme. Alors le premier, et c'est le plus probable, c'est que les sanctions pétrolières qui existent déjà en fait sur l'Iran pourraient être renforcées si justement les pays de la communauté internationale décidaient de les appliquer plus fort pour punir l'Iran, si on veut, de son attaque contre Israël. Ensuite, il y a un risque que la réponse d'Israël vise l'infrastructure énergétique iranienne. Et enfin, le dernier risque, c'est celui de perturbations en mer Rouge, et notamment dans le détroit d'Ormuz. Si l'escalade se poursuit, l'Iran risque de tenter de perturber ou de bloquer les flux de pétrole. Et dans le détroit d'Ormuz, actuellement, il y a 20 millions de barils qui passent par jour, c'est-à-dire un quart de la production mondiale, donc on peut imaginer un impact important.
Donc concrètement, Xander, est-ce qu'on doit s'attendre à une forte hausse des prix du pétrole ?
D'un côté, on pourrait croire avec ces risques que les prix du pétrole pourraient s'envoler dans les prochaines semaines. Sauf qu'il faut rappeler un élément important. À l'heure actuelle, l'Iran, ce n'est que le 7e producteur mondial avec un peu plus de 3 millions de barils par jour. En guise de comparaison, les États-Unis, c'est près de 13 millions de barils par jour. Donc l'Iran reste un acteur de second plan. Et si les prix devaient augmenter, eh bien les États-Unis et les autres pays membres de l'OPEP pourraient augmenter leur production pour justement stabiliser les prix et profiter eux-mêmes de prix déjà élevés.
Merci Xander pour ce suivi. Et puis notons que le chef de la diplomatie chinoise s'est entretenu avec son homologue iranien dans la nuit de lundi à mardi. Selon la Chine, Téhéran a de nouveau exprimé sa volonté de retenue. Le pays n'aurait aucune intention de contribuer à une escalade plus importante des tensions. Changer de carrière n'a plus tellement la cote. La mobilité professionnelle des Belges avait atteint des sommets après le Covid. Elle est désormais en nette baisse. Selon une étude d'Acerta, en 2024, un travailleur belge sur quatre envisage une reconversion, alors qu'en 2023, près de la moitié d'entre eux étaient prêts à faire ce choix. Les moins de 45 ans et les cadres supérieurs sont les plus enclins à chercher de nouvelles opportunités. C'est souvent un désir de changer de secteur, d'améliorer leur équilibre entre travail et vie professionnelle, ou encore la volonté de devenir indépendant qui motive les candidats au changement de carrière. D'ailleurs, près d'un quart des travailleurs qui veulent se reconvertir aspirent à être des indépendants, tandis que la même proportion cherche un nouvel emploi dans le secteur privé. Et même si ces chiffres restent importants, cette baisse, elle montre aussi que les entreprises ont su répondre aux aspirations de leurs employés. Corriger un marché unique devenu inefficace, voilà la priorité de l'Union européenne selon Enrico Letta. L'ancien premier ministre italien revient d'un périple de 6 mois à travers l'Europe et son constat est sans appel, il faut revoir le marché unique qui est selon lui victime de défauts de conception. Il présentera jeudi un rapport pour corriger le tir. Ici, on peut noter 3 points. Tout d'abord, il faudrait élargir le marché unique qui n'intégrerait pas assez les secteurs de la finance, des communications et de l'énergie. Ensuite, l'autre défi, ce sera de mobiliser l'épargne privée pour financer les entreprises. Car selon Enrico Letta, 300 milliards d'euros issus de l'épargne quittent l'Europe chaque année, principalement en direction de l'économie américaine. Et enfin, le troisième point, c'est de régler le problème des aides d'État, car tous les 27 ne sont pas égaux à ce jeu-là. Pour cela, Enrico Letta propose que les gouvernements allouent une portion de leurs financements nationaux pour soutenir des initiatives européennes. Pour finir, n'oubliez pas la grande enquête du Brief. Si vous nous écoutez tous les matins ou même si c'est la première fois, votre avis nous intéresse. Avec un rapide questionnaire, on connaîtra mieux vos attentes et ce qui vous plaît dans le Brief, ou pas d'ailleurs. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Merci à Florent Schaus et à notre stagiaire Brian Momard pour la préparation de cet épisode. Quant à moi, je vous dis à demain. Salut!
La Banque Van Breda, vous méritez plus d'évolution. Plus d'évolution de votre capital. Plus d'évolution de votre capital pendant votre carrière pour pouvoir suivre l'évolution de vos petits-enfants après votre carrière. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.